Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court. C'est une conversation qui dure une heure tous les soirs. Ce soir, nous recevons Marc-Alain Wagnin.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parlez-temps qui court.
Marie Richeux avec Marc-Alain Wagnin.
Juste avant de tourner la dernière page, juste avant que nous plongions dans vos passionnantes notes de traduction de la Genèse, Marc-Alain Wagnin, vous écrivez que la plus grande leçon portée à vos yeux par le texte biblique, c'est la liberté de l'homme. Car je vous cite, « Si Dieu existe dans le texte, c'est pour annoncer cette bonne nouvelle que l'on peut se passer de lui, mais pas de la transcendance, c'est-à-dire d'un au-delà, d'un ailleurs, c'est-à-dire d'un avenir et d'un futur, c'est-à-dire de la construction de la vie. On peut se passer de lui, mais pas de la bonté envers les hommes, la bonté simple, la petite bonté, comme dit Vassili Grossman. » Et là, c'est vous qui citez Grossman. « La bonté humaine dans la vie de tous les jours. » C'est la bonté d'une vieille qui, sur le bord de la route, donne du pain à un bagnard qui passe. C'est la bonté d'un soldat qui tend sa gourde à un ennemi blessé. C'est la bonté de ces gardiens de prison qui risquent leur propre liberté et transmettent les lettres des détenus aux femmes et aux mères. Cette bonté privée d'un individu à l'égard d'un autre individu, c'est une bonté sans témoin, une petite bonté sans idéologie. » Bonsoir à vous, Marc-Alain Wagnin.
Bonsoir Marie Richeux.
Soyez le bienvenu, nos auditeurs et nos auditrices connaissent votre voix parce que vous produisez depuis des années une émission qui s'appelle Talmudique sur l'antenne de France Culture. Vous publiez donc La Genèse de la Genèse, illustrée par l'abstraction. C'est aux éditions Diane de Cellier. Et puisque je vois que vous prenez des notes et puisque je suis super curieuse, je vois que vous prenez des notes sur le titre de l'émission. Qui court ? Par les temps qui court ?
Oui, par les temps qui court. D'abord, ça veut dire que vous avez une bonne vue.
Oui, j'ai une bonne vue.
Voilà.
Quand je chausse mes lunettes.
Et en écoutant le générique de l'émission, je pensais à ce début de la Genèse, où justement, c'est un texte qui est un texte éminemment corporel. Ce que j'appelle corporel, c'est-à-dire, je me réfère ici à une analyse de Marielle Massé, dans son livre qui s'appelle « Manière d'exister, manière de lire », qui dit que, elle reprend des analyses de Stanley Fish, qui dit que lorsque l'on lit, il y a des images qui se forment dans la tête et que ces images ont des répercussions sur le corps. Par exemple, dans cette Genèse qui commence par le ciel et la terre, le ciel, c'est une image pour nous, c'est une image de l'en haut. La terre, c'est une image de l'en bas, et on a immédiatement une verticale qui se met en place, une verticalité, et que même si on est un peu, je dirais, voûté, ontologiquement, tout à coup, on se redresse. Et puis, dans le deuxième verset, qui parle du souffle de Dieu à la surface des eaux, on est dans l'horizontalité, et je me suis dit que quand au troisième verset arrive la lumière, on est dans une diagonale, c'est-à-dire que verticale, horizontale, diagonale. Et là, ça me fait toujours penser à cette sculpture de Giacometti, l'homme en marche. Et l'homme, et j'ai pensé donc l'homme en marche, l'homme qui court, mais les temps qui courent, mais qui courent vers où? Et donc c'est ce qu'on va peut-être voir ici. Mais ça m'a fait penser à cette dimension du corps. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'on parle des textes, on parle de traduction, de Genèse, de textes bibliques, et on a l'impression que ces textes sont faits simplement pour être lus, c'est-à-dire qu'ils sont de l'ordre de la parole, alors qu'en fait nous sommes des êtres vivants, et des êtres vivants, c'est-à-dire des êtres qui avons d'abord un corps. Et je crois que ce qui m'a plu aussi de faire ce livre chez Diane de Cellier, publié dans ce format, si vous voulez, qui est grand. Moi, je trouve très personnellement, mais c'est pas à moi de le dire, mais je trouve que le livre est beau. Mais
c'est... si vous voulez, je peux ajouter ma voix à la vôtre.
Voilà, alors c'est gentil, mais je trouve que c'est un objet. C'est un objet. Il est lourd. Je crois qu'il fait plus de 2,5 kg. Hein, c'est un beau bébé, mais ça veut dire que il y a du poids. Il y a du poids, mais c'est-à-dire il y a du corps. Et voilà. Et je crois qu'il faut redonner du corps à la voix pour comprendre ce qu'est le texte de la Genèse.
Alors vous savez, pour rester un petit instant sur le titre de cette émission, qu'à chaque fois qu'un interprète ou une interprète passe ici pour traduire des artistes du monde entier, se pose la question de la traduction du titre de l'émission. Et alors donc c'est un appel à tous les interprètes qui nous écoutent. Nous ne sommes pas encore satisfaits, nous n'avons trouvé aucune bonne traduction de Par les temps qui courent. Donc voilà, à suivre.
Oui, je vais tenter. Si ça me vient pendant l'émission, je vous dirai.
Une première archive.
Lorsque j'ai regardé ce texte hébreu, bien sûr, je l'ai scruté, je l'ai étudié, mais très vite, j'ai fait l'expérience que lui me saisissait et qu'il m'entraînait dans une sorte de danse. Et en fait, la tradition sémite n'est pas discursive du tout. C'est une tradition corporelle qui est chantée, qui est dansée. Et avant même que je le sache, je me sentais entrée dans cette danse. Chaque lettre est comme une icône du Verbe divin. Elle est une personne vivante et les lettres forment entre elles non pas des mots, mais je dirais des corps de ballet. Et bien sûr, secondairement des mots. Mais c'est avant tout un corps de ballet qui vient vous saisir pour entrer dans la danse. C'est ça, mon expérience, voyez-vous.
On est en 2010 et c'est Annick de Souzenel qui ponctue sa parole pour parler du rapport qu'elle a avec ce texte-là, de voyez-vous, 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 Marc-Alain Wachnin. Elle parle d'une danse. Ça poursuit ce que vous disiez en introduction, l'idée que c'est à vivre avec le corps, ce texte-là, pour vous.
Oui, elle parle de la danse des lettres. Et je pense qu'elle veut dire aussi que cette danse des lettres, elle influe sur la danse du corps du lecteur. Donc c'est une double danse, c'est-à-dire que le lecteur va danser avec des lettres qui dansent. Donc c'est quelque chose de très dynamique. Et je pense que c'est lié, si vous voulez, à la structure de la langue hébraïque. Parce que la langue hébraïque n'est pas une langue de mots. Il faut rappeler que la langue hébraïque, c'est une langue que l'on parle comme toutes les langues, ça veut dire avec des sonorités vocaliques et consonantiques. Mais lorsqu'on écrit l'hébreu, et surtout l'hébreu biblique, il n'y a que des consonnes. C'est-à-dire que le lecteur vient avec sa voix, avec ses propres voyelles, et c'est lui qui va mettre ses voyelles à ses consonnes. Il y a un auteur très important qui s'appelle Rabbi Nachman de Bratslav qui dit que parler, c'est rendre possible l'amour entre les voyelles et les consonnes. Et donc, on voit d'emblée que c'est un lien qui existe entre le lecteur et le texte, une danse qu'il y a entre le lecteur et le texte. Et j'ai entendu dans le générique, je crois, le mot tango, si j'ai bien entendu.
C'est un des premiers mots.
Un des premiers mots. Et ce mot tango me rappelle un film très très beau de Sally Potter qui s'appelle Le Dernier Tango, je crois. Et c'est une histoire d'une femme qui apprend le tango. Et il y a une scène où son maître de tango l'amène à Saint-Sulpice, sous le tableau de Delacroix, dans le combat de Jacob avec l'ange. Et il lui montre que ce combat de Jacob avec l'ange, c'est une passe de tango. Bah, je crois que quand je lis le texte, quand je l'interprète, j'ai l'impression de danser. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que je dis toujours à mes étudiants, quand je fais une trouvaille d'interprétation, je dis je suis tellement content que je vais aller faire réouvrir tous les magasins Repetto pour acheter des ballerines et danser.
C'est vrai.
Je dis ça de manière, c'est une constante. D'ailleurs, souvent à la fin de l'année, les élèves m'offrent des Repetto dédicacés. Voilà. Mais je crois que voilà, ce qui est très important, c'est que on comprend d'emblée l'importance du corps, l'importance de la verticalité, l'importance du mouvement l'importance de pas simplement la verticalité, mais ni l'horizontalité, mais la diagonale. J'aime cette image de la diagonale, ça veut dire qu'on est penché vers le futur. Et pour reprendre ce que vous avez dit dans votre très beau chapeau en parlant de ce futur, il est intéressant que Dieu qui se présente, comme je dis, Dieu s'il existe, en tout cas il est le personnage de ce texte, il se présente comme un futur. En hébreu, il dit, quand Moïse lui demande « mais tu t'appelles comment ?», il dit « je m'appelle Eyé Asher Eyé », ça veut dire « je serai celui qui continuera à dire en permanence « je serai ». Et je crois que ce que font les lettres de ce texte, c'est de nous prendre par la main et de nous dire « oui, il y a un futur, oui, il y a cette liberté de la danse et on peut toujours être, l'homme n'est pas, mais l'homme est en train de devenir ». Et c'est là qu'il y a un problème face au texte, parce que un mot est toujours, je dirais, fini. Il se compose de 3, 4, 5 lettres. Sauf que l'hébreu, avec cette particularité que j'ai dite avant, qui fait que dans le texte, chaque mot n'est que consonne. C'est moi qui amène les voyelles, mais dans le texte, il n'est que consonne.
Donc il y a un encouragement au devenir.
Il y a un encouragement, il y a une invitation à la lecture au sens de proposer une lecture, parce que le même mot peut se lire de deux façons. Par exemple, le mot, si je prends 3 lettres, Zayin, Raf, Resh, je peux le lire Zecher, qui veut dire le souvenir, mais je peux le lire Zachar, qui veut dire le masculin. Et à ce moment-là, on va se poser la question, mais quel rapport il y a entre le masculin et le souvenir? Mais quand on s'aperçoit, par exemple, que la femme se dit Nekeva, le féminin se dit Nekeva, et que Nekeva veut dire le trou, la trouée, alors immédiatement, on pense au trou de mémoire. Et donc, on a une sorte de dialectique qui se met en place entre le masculin et le féminin, et le souvenir et l'oubli. Ce qui ne veut pas dire que, comme on me le pose la question souvent, mais de manière comme si c'était négatif, la notion d'oubli du côté du féminin. Non, la notion de l'oubli est quelque chose qui est absolument nécessaire, parce que si nous n'étions pas capables d'oubli, nous ne serions pas capables de futur, justement. C'est la condition même de pouvoir continuer à avancer.
Ça fait combien de temps que vous dansez cette danse avec ce texte-là, Marc-Alain Wachnin ?
Parce que quand je suis né, je suis le second de la famille. Mon frère aîné est un garçon, donc ma mère voulait une fille. Donc j'ai fait de la danse très tôt. Non, sérieusement, c'est-à-dire que j'ai fait de la danse classique très tôt. Mais pour reprendre maintenant la métaphore, ça fait une petite... on va dire entre 50 et 60 ans.
Et c'est une danse qui, alors vous le dites, produit du futur, produit de l'ouverture, produit du questionnement, produit... une perpétuelle invitation à l'interprétation. Ça vous met dans quoi comme disposition à la vie, à la littérature, à la pensée? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes formé par cette danse-là?
Ah, complètement. C'est-à-dire que je pense que d'abord ce que ça amène, cette danse amène, ce mouvement amène la joie. C'est-à-dire que c'est... il y a un maître, le même maître dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Rabbi Nachman de Bratslav, qui dit il faut être toujours joyeux. Alors, lui, il dit « il faut », c'est-à-dire qu'on n'est pas nécessairement dans cette disposition. Mais il me semble que l'interprétation, et en particulier aussi la traduction, amène quelque chose de l'ordre de la joie. Alors, j'ai eu des recherches dans les neurosciences.
Mais enfin, en vous écoutant, j'allais dire en psychanalyse, c'est beaucoup de choses qui s'entendent, hein, l'interprétation, le déploiement du discours apporte la joie.
C'est très très proche de la psychanalyse, c'est un travail, et je pense que cette phrase de Karl Abraham à Freud en 1904, quand il dit « nous ne cesserons jamais d'être des talmudistes », vient bien faire comprendre la proximité entre psychanalyse et judaïsme et l'interprétation. On s'est rendu compte que les règles d'interprétation des rêves dans le texte de Freud et les règles d'interprétation dans le Talmud sont pas quasiment identiques, mais sont identiques. C'est-à-dire que il y a véritablement une filiation, et c'était un autre sujet, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup porté. Mais pour revenir aux neurosciences, j'ai découvert que la traduction, c'est-à-dire la double langue, passer d'une langue à l'autre et parler deux langues, dégage des hormones, et en particulier des hormones du plaisir. C'est-à-dire que le bilinguisme est quelque chose de réellement joyeux, et j'ai eu cette chance de pouvoir enseigner pendant 20 ans à l'université de Bar-Ilan. J'enseignais Kafka et je préparais le texte en français dans la Pléiade. Je regardais la traduction en allemand pour pouvoir comprendre la source du texte, et je l'enseignais en hébreu. Et je vous promets que simplement de passer d'une langue à l'autre, il y a presque, même en parlant maintenant comme un souvenir, j'ai presque de la chair de poule de bonheur, si vous voulez, de cette dimension. Donc je crois que la traduction, c'est une, amène quelque chose qui est de l'ordre de la joie, et quelque chose, vous l'avez bien souligné, qui est de l'ordre de la liberté. Parce que si les mots sont des lettres et non pas des mots, c'est-à-dire, je reviens un petit peu en arrière, chaque mot en hébreu est formé de 3 consonnes, sans voyelles. Mais ces consonnes, elles ne sont pas attachées. C'est-à-dire que quand vous regardez l'hébreu, vous pouvez pas avoir 2 lettres qui se touchent. C'est-à-dire que d'un point de vue de la liturgie, le texte de la Torah est formé de consonnes qui sont chacune avec un espace périgrammatique, si on peut dire. C'est un espace blanc autour.
Un peu d'air, quoi.
Et beaucoup d'air, même. Et s'il y a 2 lettres qui se touchent, le livre est inapte à la lecture, même si on peut le lire, en fait, on le referme et on le remet dans l'armoire. Parce que il faut justement de la respiration. Comme disait Kafka à son éditeur, je vous demande qu'il y ait beaucoup de blanc autour des lettres et dans les marges pour que je puisse respirer. Voilà, mais ces marges ici, cette respiration, c'est d'abord la liberté des lettres. Et qu'est-ce que va produire la liberté des lettres? La danse dont parlait Annick de Souzenel, c'est que je peux permuter les lettres. Le secret de l'hébreu, c'est sa permutation. C'est-à-dire que un même mot formé de 3 lettres va déjà avoir 6 permutations possibles, et ces 6 permutations possibles vont amener d'autres sens qu'on va mettre en relation, et on va faire des découvertes fantastiques.
Mais c'est aussi une ouverture vers l'infini, c'est-à-dire qu'autant de permutations empêchent la fixité, empêchent le fini, et donc non seulement entraînent un mouvement perpétuel de la danse ou d'autres choses, et la joie qui va avec, mais c'est une relation directe avec le fait que ça nous emmène vers où on veut, mais vers un infini.
C'est la relation avec la transcendance. C'est peut-être là où le fini que nous sommes touche à quelque chose de l'infini, et que la dimension entre guillemets religieuse, qui est ce rapport à la transcendance que vous avez aussi évoqué, à laquelle on ne peut pas échapper, être homme c'est aussi être homme de la transcendance, peut se faire par la foi, dans une croyance, mais se fait dans la tradition juive, en tout cas celle que je propose, par l'infini de l'interprétation. Alors bien sûr, on peut se perdre dans l'infini, c'est pour ça que la traduction qui nous oblige à un certain moment de nous arrêter sur un mot, un certain mot, on sait que c'est pas le mot définitif, que traduire sera retraduire, mais c'est une proposition, ce qui fait que tout à coup, on s'arrête quand même. Et donc, cet infini de la permutation, elle donne des choses fabuleuses, et je dis qu'un mot, c'est comme une boîte. D'ailleurs, en hébreu, le mot teva veut dire à la fois un mot, ça veut dire à la fois l'arche, l'arche de Noé. L'arche de Noé veut dire le mot, et ça a des conséquences extraordinaires, mais ça veut dire aussi une boîte. Et cette boîte, c'est comme si on met dedans les 3 lettres de chaque mot, on agite la boîte, et puis on prend à chaque fois les mots, les lettres, dans le sens où elles apparaissent.
Grand
et
Scrabble.
Ça donne... Exactement. Je pense que le Scrabble est un jeu éminemment talmudique.
Du coup, ça fait tout sens à entendre des voix de traducteurs, et notamment celle d'Henri Méchonic en 2000.
Mon rapport à ces textes, c'est un rapport poétique. Je veux dire par là que ce que j'essaie d'écouter et de rendre en traduisant, ce n'est pas de la poésie qui s'opposerait à de la prose, parce que dans la Bible, il n'y a ni vers ni prose. Il y a un continu rythmique. Et une prosodie et une rythmique très construite, très hiérarchisée, très ancienne, qui précède de beaucoup l'invention des signes graphiques pour la noter. Et ce sont donc les accents disjonctifs et conjonctifs qui sont les accents de cantillation. Moi, je ne retiens évidemment pas les lignes mélodiques, je retiens les valeurs posales. Supprimer les signes de ponctuation, c'est remettre à sa place la plus ancienne ponctuation, si on peut dire, c'est-à-dire les blancs.
Celle du sens, en somme.
Non, celle du mouvement du sens.
Et nous y revoilà dans la danse avec la voix d'Henri Méchonic, traducteur de la Bible. Il est au micro ici d'Antoine Perrault en 2000. Ce qui m'intéresse dans cette archive-là, avant qu'on rentre dans les détails de ponctuation, pas ponctuation, c'est encore la question de la joie de ce mouvement. C'est-à-dire qu'on sent que quand même dans ce qui pourrait paraître détail, à savoir quelle virgule on garde, qu'est-ce qu'on entend du texte, il y a quelque chose de la jubilation qui existe. Et je veux bien qu'on reste encore un tout petit peu là-dessus, Marc-Alain Wachnin. Comment est-ce que vous l'entendez dans la voix d'Henri Méchonic?
Je l'entends d'abord avec beaucoup d'émotion, parce que je peux dire avec joie qu'il fait partie de l'un de mes maîtres, en tout cas des maîtres de traduction. Et si Méchonic n'avait pas existé, je ne suis pas sûr d'avoir pu entreprendre ce travail. Donc c'est d'abord une manière de dire une belle dette. Et ça aussi, ça rend joyeux de pouvoir l'exprimer publiquement, parce que de le mettre en note...
Vous l'écrivez par ailleurs quand même.
Oui, je l'écris, mais de le mettre en note, et pour les personnes qui n'auront pas lu le livre, mais c'est quand même important.
Et puis ça permet quand même de dire un petit mot du titre, c'est-à-dire quand on dit la genèse de la genèse, on peut remonter la genèse de la genèse de la genèse de la Genèse, c'est-à-dire il y a aussi tous les gens qui l'ont traduit avant, peut-être aussi les scribes qui l'ont écrit, etc., etc. C'était assez beau, cette idée du chemin infini vers l'origine.
C'est exactement ça. Et je vous remercie pour votre lecture. La Genèse, c'est à la fois comment ce texte est né, quand on fait de la génétique du texte, pour savoir d'où il vient, qui l'a écrit, mais c'est aussi de savoir, dans cette entreprise de traduction, quels ont été ceux qui sont confrontés aussi à ce texte. Et je pense, et on le voit d'ailleurs quand on l'entend, alors Méchonic a une voix plus posée ici, plus poétique, etc., mais il y a une jubilation intérieure extrêmement importante, parce que de toute façon, en tant que traducteur, il est nécessairement dans la même jubilation, dans le même voyage, dans le même écart entre les langues. Il est à la fois par rapport à la langue, comme dit Antoine Berman dans L'épreuve de l'étranger, il est à la fois proche et lointain, puisque la traduction a pour vocation de rendre proche ce qui est lointain et de rendre lointain ce qui est proche. C'est ça le poétique, parce que si c'était le lointain que l'on rend proche, c'est-à-dire un verbe inconnu, un mot qui est inconnu, qui tout à coup devient connu, on passe du poétique au prosaïque. Or, le poétique, la dimension poétique, c'est une dimension métaphorique. Roland Barthes le dit très bien, il ne parle pas de ce qui est poétique, mais du poétique. Le poétique, c'est le fait que quelque chose renvoie à autre chose, qui renvoie à autre chose, qui renvoie à autre chose, et ainsi à l'infini, et on est dans ce mouvement de la transcendance. Et je l'entends maintenant avec vos questions, que dans la transcendance, bien évidemment, il faut entendre danse comme danse. C'est la transcendance, c'est-à-dire que...
D'ailleurs, on peut faire en trois mots, hein, la transe,
oui.
En... danse.
C'est ça, c'est la transcendance, mais c'est exactement ce que l'on ressent. C'est pour ça que j'invite beaucoup de personnes à s'exercer à la traduction, parce que il y a ce plaisir du corps, ce plaisir de l'esprit, cette jubilation. Et puis chez Méchonic, il invente quelque chose de nouveau dans sa traduction, qui est à la fois le blanc qui existe dans le texte biblique, puisque le texte biblique, je l'ai dit, est consonantique et sans voyelle, mais il n'y a pas de ponctuation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point. C'est un long continuum, rythmique, comme il le dit, mais il n'y a que des séparations en paragraphes avec des petits blancs et des grands blancs. C'est-à-dire qu'il y a soit un blanc à l'intérieur de la ligne, un blanc qui est enfermé dans la ligne, et on dit du texte qui va suivre que c'est un texte fermé, ou il y a un blanc qui est ouvert sur la marge, et on dit du texte qui va suivre que c'est un texte qui est ouvert. Et ces blancs, ce qui est quand même très étonnant, parce que c'est rien au niveau du sens, a priori.
Si, c'est tout, en
fait. C'est tout, oui. Mais si, par exemple, un blanc fermé est remplacé par un blanc ouvert, on dit qu'il y a une faute d'orthographe, on referme le livre et on le remet dans l'armoire parce qu'on ne peut pas le lire. Comme dit Mallarmé, ce sont les blancs qui assument l'importance. Alors qu'est-ce que font ces blancs? Ben, ils viennent dire que malgré qu'il y a des mots, malgré qu'il y a du sens, malgré qu'il y a quelque chose que l'on peut dire connaître, tout à coup dans ce blanc, il y a un vide, il y a de l'inconnu, il y a autre chose et on est invité justement vers cet ailleurs. Et ce qui m'intéresse aussi dans Méchonic, je voudrais vous le faire entendre dans sa traduction, si vous voulez. Lui traduit, imaginons qu'il traduise, parce que c'est pas exactement sa traduction, mais imaginons qu'il traduise classiquement au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Il dit, il ne faut pas dire au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Il faut dire au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre.
D'ailleurs, c'est vraiment ce que produisent les éditions chez Gallimard de ces traductions. C'est-à-dire que la mise en page, si on veut bien suivre la rythmique de cette lecture, produisent exactement cela. Mais alors moi, tout ce que vous racontez, ça me fait penser, Marc-Alain Wachnin, à la manière dont j'ai entendu se répéter au début de votre traduction le mot « entre ». C'est vraiment un mot qui c'était comme s'il était souligné en gras dans votre traduction. J'arrêtais pas de lire « entre »,« entre », »,« entre », »,« entre », presque à des moments où j'aurais pas attendu ce mot-là pour dire cette chose. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler de ce mot-là, entre, hein, je vais juste dire, alors Elohim sépara entre la lumière et entre l'obscurité. C'est pas pareil de séparer la lumière et l'obscurité. Entre la lumière et entre l'obscurité.
Alors, c'est une question d'une bonne lectrice et d'une grande lectrice, et je vous remercie. C'est que, en hébreu, j'ai voulu rendre exactement ce qu'il y avait dans le texte hébraïque. C'est-à-dire que traduire, c'est à la fois une très grande liberté, mais c'est aussi une très grande responsabilité et une très grande précision. Et dans le texte hébreu, il est dit « il sépara ben à or ou ben à rocher ». Ben, ça veut dire « entre ». Entre la lumière et entre l'obscurité. Et bien évidemment, tous les commentateurs et les lecteurs vont se poser la question, pourquoi y a-t-il une répétition? Alors qu'on aurait pu séparer effectivement la lumière de. Les commentateurs proposent, il y a là aussi une infinité d'interprétations, mais soulignent que le mot « bein » en hébreu, qui veut dire « entre », est de la racine « boun », qui veut dire « l'intelligence ». D'ailleurs, en français, on a aussi la notion de interlegere, l'intelligence, c'est lire, legere, lire, ou poser, logos, lire, entre les choses. Et entre, c'est poser entre les choses. Et cette idée d'une intelligence de ce qui est entre, non pas de ce que l'on voit, mais de l'espace qu'il y a entre les choses, de cet écart, de cette différence, aurait dit Derrida avec un A, c'est toute l'intelligence de ce texte. C'est-à-dire que à la fois, on regarde les mots, mais on se pose la question de ce qu'il y a entre les mots. Parce qu'il faut comprendre que s'il n'y avait pas de « entre », il n'y aurait pas de mots. C'est-à-dire que dans le texte de la tradition, on dit qu'il y a plusieurs Torahs, plusieurs livres, plusieurs versions. Il y a eu une première version à laquelle on n'aura jamais accès, qui est le texte que l'on ne connaît pas. Et puis il y a eu une version qui est le texte que l'on connaît, mais dans une modalité différente. C'est-à-dire que c'est le même texte, avec exactement les mêmes lettres, mais sans mots. Ça veut dire que de la première lettre jusqu'à la dernière lettre du texte, ce n'est qu'un continuum de lettres, donc c'est insensé. Il y a eu une Torah insensée. Et ce que fait Moïse, ce qu'on appelle la Torah de Moïse dans la tradition, même si c'est simplement un mythe, mais c'est on garde ça, on fait attention de manière sérieuse.
Il sépare ce magma.
Et exactement. Il sépare, il met des blancs entre les mots. Et c'est intéressant, et c'est lui qui crée donc Bereshit, Bara, Elohim. Alors qu'il aurait pu créer, il aurait pu écrire Bara, Shit. Ça veut dire qu'il a créé le Shit. Mais c'est-à-dire Shit en hébreu et en araméen, c'est-à-dire 6. Il a créé 6 jours de la création. Et à ce moment-là, on découvre que les mots, et c'est une façon de lire, ont des lettres frontières.
On découvre aussi l'arbitraire du langage. C'est-à-dire que vous dites, finalement, Moïse, dans le mythe, a coupé ici, mais il aurait pu couper ici. Ça nous rappelle aussi que nous manipulons des choses arbitraires.
Complètement arbitraires. Et c'est ça qui est important de souligner, parce que si le texte n'était pas qu'une possibilité de texte, il serait une idole. Et le rapport au texte ne serait pas une lecture, mais une textolatrie. Or, ce que fait la lecture et ce texte lui-même, avec la manière dont on pense sa genèse, ça veut dire justement, comme je suis en train de le dire, c'est-à-dire une invention, une liberté. Même lire, c'est déjà une liberté de couper les mots d'une certaine façon, et ça produit des sens infinis. Le but essentiel de la lecture, c'est de faire échapper ce texte à l'idole, et de pouvoir, si vous voulez, donner aux mots quelque chose de leur liberté. Vous avez commencé avec la liberté, et je pense même que c'est pas simplement aux mots et au sens qu'on donne à la liberté, mais même à Dieu. D'abord, je citerai Lévinas, que dans une formulation que j'ai reprise de Lévinas, c'est pas exactement sa formulation, mais je l'aime beaucoup, il dit « Dans chaque mot, il y a un oiseau aux ailes repliées qui attend le souffle du lecteur. »
Alors quoi, on donne l'autorisation à Dieu de s'envoler un peu, de s'absenter ?
C'est pas que l'on donne, c'est que Dieu nous l'offre lui-même. C'est-à-dire que dans la théologie, maintenant, dans la théologie poétique de la Bible, il y a un problème avec Dieu. C'est-à-dire Dieu lui-même a un problème avec lui-même. Parce que si, dit-il, je suis Dieu, on le fait parler, et donc je suis infini, il n'y a pas de place pour autre chose que moi. Donc le monde n'est pas possible. Si Dieu est, le monde n'est pas possible. Donc il décide de se retirer de lui-même en lui-même, de s'absenter de lui-même, et au milieu de cet infini, il y a un vide, il y a un espace, un vide de Dieu, qu'on appelle le Tzimtzum, et cette disparition de Dieu, qui en hébreu se dit « olam », donne le mot « monde ». Le monde, c'est le lieu de la disparition de Dieu. Mais dans un deuxième temps, il va revenir. Il va revenir sous forme de la révélation, sous forme de texte. Et donc, quand il va revenir, il va pas revenir dans l'intégralité de lui-même, mais dans une sorte de concentré de lui-même. Et il va être, à ce moment-là, absolument non-aristotélicien, puisqu'on va, il va dire, il y a Dieu, et en même temps, il n'y a pas Dieu. Ça veut dire qu'il défie
physique le, quantique.
Voilà. Le défi du principe de contradiction en physique quantique. Sauf que quand vous avez le livre, qui est la révélation, c'est comme si vous avez Dieu, infini, qui a accepté de se faire fini. Et donc, vous promenez avec le livre, c'est se promener avec Dieu en prison dans le livre. Et donc là, il y a une très grande responsabilité, c'est que l'homme doit redonner à Dieu son statut d'infini. Comment ? En le libérant de la finitude des mots dans lequel il a accepté de s'enfermer.
En pensant entre les lignes.
En pensant entre les lignes, dans les mots, dans tous les jeux possibles de la lecture que cette tradition propose.
Il y a autre chose, Marc-Alain Wacklin, que j'ai beaucoup relevé dans le, comme ça dans votre traduction de la Genèse, c'est une forme de rythmique que j'avais l'habitude de rencontrer chez Homère, que ce soit dans l'Iliade et l'Odyssée, notamment dans la manière dont les jours disparaissent et les jours arrivent. Alors, ça passe par, dans votre traduction, « Alors il y eut la nuit, puis il y eut la lumière ». Et chez Homère, je ne sais pas exactement, mais il y a quelque chose comme ça de cette formulation dont j'ai retrouvé une rythmicité. Est-ce que ça veut dire que ce sont des textes qu'on peut, comme ça, aimer lire en parallèle ou aimer fréquenter côte à côte ?
On peut, on doit même, je dirais. Ce sont des textes qui n'ont pas exactement le même âge, parce que je pense que dans la version que nous avons, Homère précède la Bible de plusieurs siècles. Mais et puis les auteurs de la Bible ont certainement aussi lu à la fois Homère et d'autres textes avec d'autres rythmiques, puisque ce texte de la Genèse vient de Mésopotamie, c'est-à-dire des gens qui ont l'habitude de l'épopée. Des épopées sumériennes, acadiennes, en particulier l'épopée de Gilgamesh, dans laquelle il y a le mythe du déluge, par exemple. Et donc, je pense que on retrouve le rythme, mais peut-être, comme l'a dit très très bien Méchonic, c'est que le rythme précède le texte. Mmh. Et que le texte est là, je dirais, là, c'est mon ami Gérard Garousse qui m'a dit, comme ça, il a eu une formule tout à fait intéressante, il dit, le mythe était inventé pour qu'on puisse lui offrir des mots. Et je crois que, je dirais que le rythme est dans la nature même de l'homme, et c'est ce qui a fait qu'on lui offre des mots. C'est-à-dire que on a parlé de danse tout à l'heure, mais on danse pas parce que il faut danser, on danse parce que la vie est danse, parce que on est naturellement des êtres de mouvement et de danse.
Donc on invente des musiques pour pouvoir danser dessus.
Exactement. C'est-à-dire que les musiques, mais vous avez tout à fait raison, c'est que c'est pas que on danse parce qu'il y a musique, c'est que la musique est inventée parce qu'il y a un rythme du vivant. On invente des mots pour souligner la danse du corps et la danse de la respiration. Et c'est ça la poésie. La poésie, c'est offrir des mots au rythme de notre respiration. Et cela se retrouve à la fois dans Homère, cela se retrouve dans l'épopée de Gilgamesh, et cela se retrouve dans la Genèse de la Genèse. Et c'est pour cela que j'ai tenu, dans cette édition, dans cette version, à mettre chaque verset comme un petit poème. Pas parce que c'est en vers, mais simplement parce que notre imaginaire du poème, c'est un imaginaire du rythme. Et le rythme, c'est la respiration.
On va entendre, puisque vous parlez de tous les trois, la voix de Romain de Bec de Lièvre. Il va lire un extrait de votre traduction et juste après, on entendra une archive de Delphine Horviller en 2014 au micro de Laura Adler.
Alors, Yahvé Elohim dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide en face de lui. Alors, Yahvé Elohim forma, du sol de la terre, toutes les bêtes des champs et tous les volatiles du ciel. Et il les présenta à l'homme, pour voir comment il les nommerait. Et tout nom que donnait l'homme à un être vivant, ainsi était son nom. Et ainsi l'homme donna des noms à tous les animaux et aux volatiles du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais l'homme ne trouva aucune aide en face de lui. Alors, Yahvé Elohim fit tomber un sommeil profond sur l'homme et il s'endormit. Alors, il prit l'un de ses côtés et il referma la chair en dessous. Alors, Yahvé Elohim bâtit le côté qu'il avait pris de l'homme en forme de femme et il la présenta à l'homme. Et l'homme dit: celle-ci, pour le coup, os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, parce que celle-ci avait été prise de l'homme. De ce fait, un homme quittera son père et sa mère, et il s'accolera à sa femme, et ils seront une seule chair. Les deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte.
Tout le monde a l'impression de connaître cette histoire dans la Bible d'une femme, Ève, sortie d'une côte d'un homme premier. En réalité, quand on relit les textes, on se rend compte qu'il y a une problématique de traduction, puisque le mot en hébreu qui est traduit par côte veut en réalité en hébreu dire côté. Et c'est pas du tout la même chose de dire que Ève sort à côté ou sur le côté d'Adam, c'est-à-dire dans une possibilité d'un rapport sujet à sujet, dans une possibilité de face à face, que de dire qu'elle est sortie d'une côte, c'est-à-dire d'un élément de support, un élément de soutien, un élément secondaire qui est secondaire par rapport à un masculin premier. Donc définir la femme comme étant sortie d'une côte et non d'un côté, c'est faire le choix de l'inscrire dans un rapport d'objet à sujet, dans un rapport secondaire et dans un rapport de soumission par rapport à un ordre dominant masculin. Et je crois que c'est important de revenir au texte parce qu'on n'est pas ici en train simplement de développer des idées modernes, de théories féministes ou théories du genre qui seraient purement liées à notre début de 21e siècle. On revient ici à des lectures rabbiniques ancestrales qui ont toujours existé et qui nous invitent à percevoir que le texte est un peu plus complexe que sa traduction simultanée ou que sa traduction première, et qui nous invitent aussi à considérer que la traduction est et a toujours été un art éminemment politique et qui a des conséquences politiques et civilisationnelles considérables qui viennent du choix d'un mot versus un autre dans la traduction de ces textes qui fondent notre civilisation.
Oh, make you love.
France Culture, par les temps qui courent, Derer Azmanim Aratsim, Marie Richeux, avec Marc-Alain Wachnin.
La voix de Robert Wyatt que j'ai du mal à arrêter, Marc-Alain Wachnin. Et juste avant, je le rappelle, donc une archive de Delphine Orvillère en 2014, au micro de Laure Adler, la si belle lecture de Romain de Bec de Lièvre, de votre traduction. Alors, sur ces questions de côté, Delphine Orvillère dit la traduction est une entreprise de responsabilité, ce que vous disiez tout à l'heure, à d'autres égards, et de responsabilité politique, lorsqu'on rencontre aussi l'écho du monde, l'écho du monde dans lequel nous allons, et la possibilité de rapport entre des sujets, de rapports égaux entre des sujets, notamment entre des sujets de sexe différents. Alors comment est-ce que vous en êtes dépatouillé de cette histoire-là, Marc-Alain Wachnin?
D'abord, merci Romain pour votre belle lecture.
Avec plein de blancs dedans. Avec,
justement, j'ai apprécié une lecture très malarméenne, plein de blancs, mais qui correspond à l'esprit du texte. Ce que dit Delphine Orvillère est tout à fait juste et éminemment important, c'est-à-dire que l'acte de traduction, ou de traduire, il faudrait dire, parce que la traduction, ça veut dire que c'est achevé, et traduire, c'est toujours en mouvement, est quelque chose qui est politique. Et je pense que d'avoir traduit, comme elle le souligne très bien, par le côté plutôt que la côte, fait sortir la femme de cet objet. Moi, en écoutant, et je me disais, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que l'infini dont on a parlé précédemment, c'est aussi l'infini du traduire. Et je me suis dit au même moment, mais comment aujourd'hui, si j'avais la chance de pouvoir retraduire ce texte, je traduirais ce mot qui soit ni la côte, tradition classique, ni qui nous vient du latin certainement et du grec, qui soit ni le côté, qui est d'ailleurs déjà traduit comme cela à propos de dans la Septante par exemple. C'est-à-dire que c'est une très belle amphibologie. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est pas tellement qu'il faut. Je reviendrai sur la traduction, la nouvelle traduction que je propose, mais en parlant, je pense à quelque chose d'essentiel, c'est que dire que ça a été traduit pendant très longtemps par côte et que aujourd'hui on peut le traduire par côté, c'est souligner quelque chose d'essentiel du langage, c'est-à-dire que le langage est amphibologique. Amphibologique, ça veut dire que chaque mot a toujours au moins deux significations. Et que traduire, ce n'est pas réduire les deux significations, c'est pas un choix. C'est-à-dire que, en fait, traduire, ça serait la possibilité de traduire les deux en même temps. Et alors que c'est impossible pour nous parce que on ne peut dire qu'un mot à la fois. Et c'est
Barthes. Sauf si on trouve par magie un mot dont l'équivocité est parfaite.
Oui, mais si l'équivocité est parfaite, par exemple, Barthes donne un exemple dans Roland Barthes par Roland Barthes sur le mot volume. Il dit le mot volume peut signifier ça peut signifier un livre, ça peut signifier une hauteur de son, ça peut signifier un volume chimique. Il dit mais c'est le contexte qui va réduire la polysémie. Mmh. Si je dis je suis sorti de la bibliothèque avec deux volumes, on comprend que c'est un livre. Si je suis sorti de la discothèque parce que le volume était trop fort, on comprend que c'était une hauteur de son. Et si je suis dans mon laboratoire, je fais une expérience avec deux volumes, on comprend que c'est un volume chimique. Donc le contexte réduit le sens. L'amphibologie, c'est le fait de pouvoir dire l'ensemble de ces sens en même temps. Et Barthes dit, il y a à ce moment-là une jouissance sémantique. Alors, en hébreu, on a le mot tsela, qui veut dire en même temps la côte et en même temps le côté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est une erreur de traduction. C'est-à-dire que dans le dictionnaire Homo Zella, on a à la fois la côte et à la fois le côté. Mais c'est le contexte qui va nous permettre de traduire soit la côte ou le côté. Par exemple, quand dans le temple de Jérusalem, on dit le Tzela du temple faisait tant de coudées. On comprend que ça veut dire le côté du temple. Mais le côté d'un être humain, on ne sait pas exactement ce que c'est. Comme Tzela, ça veut dire aussi la côte, on a préféré choisir la côte.
Alors moi, j'attends avec impatience l'autre traduction que vous pourriez encore faire.
Oui, et ben, l'autre traduction, elle m'a été proposée par, en détour, c'est moi qui le vois, par Alexis Nuss dans un article qu'il a consacré à Antoine Berman dans son livre L'épreuve de l'étranger, où il traduit le versant. Et c'est joli parce que là, il y a un jeu de mots entre le versant et le verset. Et je pense que chaque verset a plusieurs versants. Et chaque verset est comme une montagne. Et chaque traducteur est en fait un alpiniste. Et on a différentes voies pour pouvoir arriver au sommet.
Mais ce qu'on entend aussi dans la voix de Delphine Horviller, et c'était quand même le sens de ma question, c'est que quand on fixe pour un temps des traductions, sans oublier que c'est à redéployer et redéplier ensuite, on donne des possibilités d'appui, des possibilités de lecture, des possibilités de discussion. Et j'allais dire, Dieu sait si on a l'habitude de pouvoir s'appuyer sur des textes. Et que je crois que c'est intéressant quand même de se poser la question dans un moment contemporain où l'égalité entre les êtres, que ce soit entre les femmes et les hommes, mais aussi entre les enfants, les femmes et les hommes, mais aussi entre les animaux, les enfants, les femmes et les hommes, se pose, de savoir quelle potentialité d'égalité on fait circuler dans les textes.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle le dit très bien. En traduisant la côte, on objective la femme qui viendrait d'une partie, alors que si c'est le côté, il y a une dimension plus égalitaire. Je crois que c'est pour ça, d'ailleurs, que dans ma traduction, j'ai traduit aussi côté. C'est ce que l'on traduit actuellement. Ça a été proposé dès les années, fin des années 60, par Lévinas dans une de ses lectures talmudiques, qui s'appelle « Et Dieu créa la femme ». Il reprend le titre de Vadim. Et il montre effectivement qu'on a traduit côte jusqu'à présent, mais qu'il faut traduire côté. Et que les implications, comment on pourrait dire, politiques, philosophiques, sont éminemment importantes. Moi, ce que je voudrais souligner dans ce domaine, c'est que en général, quand on dit et quand on parle de la solitude de l'homme, la solitude existentielle de l'homme,
c'est vraiment ce que je prenais en note en réécoutant la lecture de Romain. Ça me semble primordial.
L'homme est seul, et ce que vient dire ce texte, c'est qu'il y a une solitude existentielle de chaque sujet, et que la préoccupation de la Bible, c'est dans ce texte-là, c'est comment l'homme, c'est-à-dire l'humain, l'être humain qui est, va sortir de sa solitude. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on pose des questions au lecteur de ce texte, en général, tout de suite, il dit « Et l'homme était seul, et Dieu lui a proposé une femme. » Mais c'est pas du tout ce qui est dit dans le texte. L'homme était seul, et il lui a proposé de rencontrer les animaux. Et la rencontre avec les animaux s'est faite avec le langage, puisqu'il va les nommer, donner un nom. Mais le commentaire de Rashi, le commentaire français du XIe siècle, en suivant le Midrash, il a un commentaire extrêmement audacieux, osé, si vous voulez, pour son époque et pour la nôtre aussi. Il dit, en fait, il a eu des relations sexuelles avec tous les animaux. Mais ça n'a pas fonctionné. Il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Et quand il rencontre la femme pour la première fois, il dit « pour le coup ». Et ce « coup » en hébreu, qui est dit « pour le coup », qu'est-ce que vous avez comme traduction ? Romain, reprenez la traduction que vous venez de lire, s'il vous plaît. Quelle est la phrase exacte du verset ?
Et l'homme dit « celle-ci, pour le coup ». Os de mes os et chair de ma chair.
Voilà. Et celle-ci, pour le coup. Mais ça veut dire quoi, pour le coup? Et là, vous voyez, c'est très intéressant, parce que là, on joue de l'amphibologie. Le mot coup, c'est, en français, pour le coup, c'est, bon, j'aurais pu traduire pour cette fois-ci. Non, c'est pas cette fois-ci. Parce que, en hébreu, le mot, pour le coup, c'est zot apaam. Et paam, ça veut dire à la fois le pas que l'on marche, mais ça veut dire aussi la cloche. Et ça veut dire le coup du battant sur la cloche. C'est-à-dire la résonance, un son qui va au-delà de lui-même. Et le commentaire de Rachi, c'est comme ça que je l'ai compris, que j'interprète, c'est qu'il y a ici dans ce texte une réflexion sur la jouissance sexuelle et sur le plaisir de cette sexualité et sur la dimension d'une réflexion sur la solitude. Parce qu'on peut être seul, rencontrer quelqu'un, sortir de sa solitude un instant et puis retomber dans sa solitude. C'est ce que Adam vit avec les animaux.
Donc du coup, Lacan, pas de rapport sexuel ?
J'y viens. Mais c'est très proche avec Lacan de ce que je suis en train de dire, c'est très proche. Et quand il rencontre la femme, il s'aperçoit que ce qu'il ressent, ce qu'il vit, va résonner au-delà du moment de leur relation. Ça veut dire que, et c'est ce que j'appelle, il y a une volupté qui est au-delà de la jouissance. Il y a une sorte de prolongation du plaisir à travers le temps, et je dirais, pour anticiper un petit peu sur la question de l'abstraction, c'est que le personnage principal de la sexualité, c'est la temporalité. Ça veut dire que si ce que je ressens dans un moment d'une expérience de rencontre se prolonge au-delà de la rencontre, même lorsque la personne que j'ai rencontrée n'est plus là, à ce moment-là, il y a une véritable rencontre et je sors véritablement de ma solitude. Mais si le plaisir est réduit au moment de la rencontre, à ce moment-là, je retombe dans cette solitude et simplement avec un mot, pa'am, qui veut dire la résonance de la cloche, pour le coup, j'ai traduit sous forme de jeu de mots, et un peu vulgaire. Dans les notes, j'ai dit pour le coup, c'est un bon coup, mais ça veut dire pour le coup, c'est un bon coup parce que... Non, c'est pas bravo parce que c'est vulgaire, mais ça veut dire que, pour faire entendre que c'est vraiment le mot qui est en hébreu, pour dire que il y a quelque chose d'une réflexion sur la solitude et sur l'importance de la sexualité qui se prolonge dans le temps.
Alors c'est marrant parce que quand vous parliez de la sexualité, je croyais que vous alliez dire le personnage principal c'est l'abstraction, mais on y vient avec cette archive de Pierre Soulage, en 1951.
Il y a de ma part une continuelle intervention, un va-et-vient continuel entre mon désir de forme et l'interrogation de la forme que l'impulsion dont je vous parlais tout à l'heure m'apporte. Cette suite d'impulsions et d'interrogations des formes qu'elles m'apportent mettent à chaque instant ma liberté en jeu. Je choisis telle forme plutôt que telle autre. Je rejette une courbe. J'introduis une valeur sombre. J'ajoute une ligne qui m'oblige à corriger ce qu'il y a déjà sur la toile. Le tableau prend peu à peu le caractère indissociable d'une synthèse. C'est un tout auquel on ne peut rien changer. Ma liberté y étant à chaque instant en jeu. Le tableau est un engagement total, témoignage poétique du monde que l'on abandonne au spectateur. Ainsi, je crois que la notion d'engagement apparaît assez clairement. Ce n'est pas un engagement a priori, un choix artificiel avant de commencer à peindre, dicté par je ne sais quel mobile superficiel, mais au contraire un engagement de l'individu en entier, dans ce qu'il a de plus profond. D'autre part, une peinture ainsi conçue est vraiment abandonnée au spectateur. Il n'est pas pris à partie à travers la peinture, il ne s'agit pas pour lui de retrouver les intentions du peintre, comme dans le cas d'une peinture qui est signe. Il ne s'agit pas non plus pour le spectateur, de retrouver une histoire, un paysage, une nature morte, des personnages, ni même un état d'âme éprouvé devant eux, à travers eux. Bref, il ne s'agit pas d'une anecdote romantique ou d'un autre ordre. On ne demande rien au spectateur. On lui propose une peinture qu'il voit en toute liberté et nécessité.
Voilà, c'est Pierre Soulages qui nous offre la merveilleuse possibilité par cet archive de 1951, à la fois de dire quand même un tout petit mot, Marc-Alain Wachnin, de ces magnifiques œuvres d'art qui ponctuent le texte, et aussi de reparler de liberté. Un tout petit mot, c'est difficile au vu de la quantité des œuvres d'art que vous avez choisies, mais quand même.
Alors, oui, enfin, d'abord il y a 108 peintures, je crois, 108 œuvres d'art absolument magnifiques, choisies de l'abstraction. Au départ, Ce qui me semble important, je vais d'abord réagir à ce que dit Soulage, parce que on n'est pas du tout d'accord, Soulage et moi, sur la question de l'abstraction. Quand j'ai réfléchi sur ce livre et sur l'écriture hébraïque de ce livre, vous savez que l'hébreu, tel qu'il apparaît aujourd'hui, ce qu'on appelle l'écriture hébraïque, en fait, une écriture qui s'appelle l'écriture assyrienne, et qui est constituée de trois formes mères qui sont le point, la ligne et le plan. Et quand vous avez des livres sur l'alphabet par les grands maîtres de la tradition, le titre de ces ouvrages s'appelle « Point, ligne, plan ». Et quand je me suis aperçu que ce titre « Point, ligne, plan » est exactement celui de Kandinsky, qui s'appelle « Point, ligne, plan » ou « Point, ligne et plan » ou « Point, ligne sur plan », je me suis dit qu'il y a eu vraiment une rencontre entre la graphie hébraïque, l'idée hébraïque et la peinture abstraite. Et à ce moment-là, je me suis replongé dans Kandinsky de manière très très précise, et en particulier dans son ouvrage qui s'appelle du spirituel dans l'art, et en particulier dans la peinture. Et là, j'ai fait une découverte qui me semble absolument fabuleuse, parce que il dit, et c'est très très bien repris et souligné par son préfacier qui s'appelle Philippe Serre dans l'édition française, il dit: le personnage principal de la peinture abstraite, c'est le temps. Et il dit qu'est-ce que ça veut dire, c'est le temps. Il dit: je l'ai découvert.
Je dis juste que le temps, il ne nous en reste pas, là.
Du tout.
Ah, mais on fait concluant.
C'est le temps. Et ça veut dire que, contrairement à Soulage qui dit on demande rien au spectateur, Kandinsky, comme l'auteur du texte biblique, demande tout au lecteur, au spectateur. Ça veut dire il demande qu'il prenne du temps, le temps du questionnement, le temps de ne pas avoir compris immédiatement. Et je trouve que cette formule, en tout cas, souligne un petit peu la démarche que nous avons eue, que j'ai eue dans ce livre, c'est que l'abstraction, c'est s'abstraire de la pulsion de l'immédiateté de la compréhension. Et dans ce travail de traduction, c'est toujours ce qu'il faut faire, c'est-à-dire je ne comprends pas, je considère que ce texte est inconnu, mais quand je vais le traduire, c'est pas pour me l'approprier et faire en sorte qu'il devienne une chose qui devient ma chose, mais c'est au contraire de souligner comment il reste inconnu et comment il s'ouvre alors à la transcendance.
Un très grand merci, Marc-Alain Wachnin. La Genèse de la Genèse est parue aux éditions Diane de Sellier.
Merci à vous.
À la prise de son ce soir, c'était Bernard Laniel. À la réalisation, Anna Holweck. Par les temps qui courent, c'est Marianne Chassor, Romain Debecq de Lièvre, Jeanne Aléo, c'est Lucie Riondet. C'est aussi une page sur franceculture.fr et un podcast via les bonnes applications. Très belle soirée. C'est le journal, bientôt 22h. John told Jezebel about her ways, said her evil deeds had ruined the land, and repent for the kingdom of God was at hand. She got mad at John because they told about the gospel, told her servants to boil him in oil, but they tell me God looked from the windows of her heaven, spoke one word and the oil wouldn't boil. He raised his hands, creation trembled, stamped his feet and time stood still, raised his voice, looked down and thundered. John, go do my bill. Jezebel, 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 oh Jezebel. God's done, they got tired of your wicked ways, but the angels in the heaven done numbered your days of your evil deeds. God's done, got tired. You got to go to judgment, stand your trial. Then they tell me John moved through the power of the gospel, told Jezebel the time was nigh, on the book of life her days were ended, her time run out and she had to die. Then they tell me God walked, his footsteps thundered, he moved his head, his eyes flashed by, clapped his hands and death come a jumping. Jehovah was angry, somebody had to die. Jezebel, oh Jezebel, death come a leaping at Jezebel. Then death come a knocking on Jezebel's door and said, come on, woman, ain't you ready to go off the evil deeds? God's done got tired. You got to go to judgment, stand the trial. You got to go to judgment, stand the trial. You got to go to judgment, stand the trial. You got to go to judgment, stand the trial.
You got to go to church and better stand your ground. You got to go to church and better stand your ground. Then the death come a leaping, she jumped in the hell. And great God Almighty, I heard them tell. And 9 days she lay in Jerusalem streets. Her flesh was too filthy for the dogs to eat. Oh, Jezebel, 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 oh, Jezebel. God's time, got tired of your wicked ways. Well, the angels and the hidden that number the days of your evil deeds. God's done, got tired. You got to go to judgment, stand the trial. You got to go to judgment, stand the trial. You got to go to judgment, stand the trial.